Et tu veux nous parler ce soir de l'histoire de pourrir avec un grand H.
Exactement, exactement. Alors, Erev Tov, les Koulam. Et comme Yohann vient de le dire, c'était pas une mince affaire de parler de choses différentes. Pour l'instant, on a réussi. On va voir si on va réussir encore ce soir. A priori, normalement, on devrait réussir pour la simple raison que ce soir, on ne parle pas du tout de... C'est pas un cours de Torah ce soir, voilà. Ceux qui voulaient écouter un cours de Torah, eh bien, branchez-vous à une autre chaîne, parce que ce soir, on ne parle pas Torah. Eh ben non. Ce soir, on va parler... Voilà, c'est pour Rime, comme on a dit. Ce soir, on va pas parler Torah, ce soir, on va parler histoire. On va parler histoire parce que la fête de Pourim, encore plus que la fête de Hanouka, parce que, rappelez-vous, on avait fait des cours sur l'historique de Hanouka. D'accord ? On avait donné un cours sur qu'est-ce qui s'est passé, machin, 25 ans, tout ça, ok. Mais encore plus que Hanouka, l'histoire de la fête de Pourim est complètement ignorée. Alors, je ne parle pas de l'histoire des événements de la Megillah. Les événements de la Megillah, ça, on connaît plus ou moins. Mais l'historiographie de la fête de Pourim, dans quel contexte cette fête a lieu, eh bien, c'est quelque chose que, franchement, il y a très, très peu de gens qui connaissent exactement cette histoire. Et la vérité, la première question qu'il faut se poser, et je prends ici ma Megillat Esther, la première question qu'il faut se poser, c'est « Bishvil ma ?» Lama ze chashuv ? Pourquoi c'est important de connaître le contexte historique de la fête de Pourim ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important parce que moi, j'y crois à la Torah. Parce que moi, j'y crois à ce qui est marqué dans le Tanakh. Alors, c'est peut-être un bug, c'est peut-être... un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, ceux qui ont compris les références, on est pourim ce soir. Si on y croit à ce qui a marqué dans le Tanakh, que c'est Dvar Hashem et que c'est Emet, eh bien, ça veut dire que donc, il faut replacer l'histoire de Pourim qui s'est vraiment passée, puisque encore une fois, j'y crois. Si elle s'est vraiment passée, elle a également une réalité historique, un contexte historique. Et peut-être que si on arrive à comprendre le contexte historique de Pourim, alors Nevuah Sheutzrecha Ledorot Nirteva, une prophétie qui sert les générations, est marquée, telle que nous dit le Talmud dans le traité de Megillah à la page 14. Et donc à ce moment-là, peut-être que si on comprend le contexte de la fête de Pourim, eh bien on comprendra quelque chose sur notre réalité actuelle à nous. Alors je vous propose de rentrer avec moi dans l'historique de la fête de Pourim. Et j'aimerais vous poser une question. Voilà, on commence par de l'interactif. Et j'aimerais vous poser une question simple, finalement. C'est quand, Pourim ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une date ? Une date de la fête de Pourim ? Nous sommes en 2022, les Minyanam. Donc, les Minyanam, c'est quand la fête de Pourim ?
Moins 5 siècles.
Moins 5 siècles ? Tu veux pas me donner une date ?
Au moment de... Avant.
Ne me donne pas au moment de... Essaye de me donner un chiffre.
Moins 586.
Moins 586. Eh bien, justement pas.
Moins 450.
Moins 450. Allez, qui dit mieux ? C'est le juste prix. Ici, on va marquer moins 489. France-Galles. Ok, chez IE France-Galles.
Moins 520.
Moins 520. Alors les amis, je vous propose de rentrer tout de suite dans quelque chose d'extrêmement barbant, de quelque chose d'extrêmement pas intéressant, de faire une toute petite chronologie des événements. Eh oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. France, si tu nous écoutes. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, faisons une toute petite chronologie des événements. Le premier événement qui nous intéresse, évidemment, c'est moins 650. En l'an moins 650, eh bien, un homme que vous connaissez très bien va régner sur la ville de Anshan. Eh oui, la ville de Anshan en nazi mineur. Vous connaissez pas? Et le roi s'appelle Achashnish. Achashnish. Bon, je le prononce peut-être pas très bien, mais Achashnish, eh bien, est le roi de Anshan. Bon, c'est très bien, mais Anshan, c'est un petit, c'est une petite ville-état, en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce Achashin, eh bien, Achamnish, je vais le prononcer, Achamnish. Eh bien, Achamnish, il a un fils. Et ce fils, lui, il va régner, eh bien, à partir des années moins 580, toujours dans la petite ville de Anshan. Et ce fils, il s'appelle Koresh numéro 1. Il ne nous intéresse toujours pas, ce bonhomme. Mais Koresh numéro 1, il a un fils qui va lui aussi régner sur Anshan. Et il règne plus ou moins dans... Koresh 1, il règne en moins 590. Son fils va régner en moins 580 et il s'appelle, bien connu, Kanbuzi numéro 1. Ouais, voilà, vous connaissez bien Kanbuzi premier. Ouais. Bon, Kanbuzi premier ne nous intéresse pas. Mais au moment où il règne, alors qu'il règne à Anshan, en Asie mineure, eh bien, il y a un autre roi qui nous intéresse beaucoup plus, qui est le roi de Babylone. Il s'appelle Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Nabucodonosor, en moins 597, moins 597, va arriver pour la première fois à Jérusalem. Car la ville de Jérusalem, Mamlechet Yehuda, le royaume de Judée, s'est révolté contre Babylone. Ainsi, Nebuchadnezzar arrive en moins 597 et va emmener en exil le roi de Jérusalem et l'élite juive. Le roi s'appelle Yechonia. Ou Yehoyachin, auto d'avar Yechonia. Et tout d'un coup, ça me fait penser à un verset de la Megillah. On me dit... Ish Yehudi aya beshushan abira, ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini. Et là, les Ashkenazim lisent avec les Ta'amim de Megillat Eicha. Et ils disent Asher Ogla Mirushalayim, im Agola Asher Ogleta, im Yechonia Melech Yehuda. Voilà, comme ça, vous aurez eu la Megillat Esther en zoom. זהו, יצאנו לידי חובה. בקיצור, יחוניה, מלך יהודה, est emmené en exil par Nebuchadnezzar en moins 597. 11 ans plus tard, en moins 586, sous le règne, comme on a dit, de Kanbuzi Ier, eh bien, Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem, détruire le Beth Amikdash et envoyer le reste du peuple juif en exil à Babylone. Alors vous allez me dire, Nebuchadnezzar, je connais Kanbuzi Ier, moi, mais Kanbuzi Ier, il a un fils. Et ce fils s'appelle Koresh Hacheni, Cyrus II, ou alors Cyrus le Grand, ou alors tout simplement dans la Torah, dans le Tanakh, Koresh tout court. Et Koresh, qui monte sur le trône en moins 559, eh bien, tout d'un coup, m'intéresse. Parce que Koresh monte sur le trône à une époque très particulière, puisqu'en moins 559, il va faire la guerre à Babylone. Et il bat l'Empire babylonien et va conquérir l'Empire babylonien. Il est donc le quatrième roi de la dynastie Achmanite, de Achmanish, premier. Mais il est surtout le premier roi de l'Empire perse, qui n'est plus seulement le roi de la petite Anshan, mais qui a réussi à conquérir la Perse, la Babylonie tout entière. Et à ce moment-là, eh bien, il s'empare du royaume de Nebuchadnezzar, il s'empare du royaume de Belshazzar après lui, et il devient donc le patron également de tous les Juifs qui sont en exil. Koresh, en l'an moins 538, va faire la fameuse Hatzarat Koresh. Qu'est-ce que c'est que la déclaration Koresh ? Les amis, la déclaration Koresh n'est autre que le décret officiel qui permet non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples exilés par les Babyloniens à rentrer dans leur pays d'origine et à y reconstruire leur temple. Cette Hatzarat Koresh, elle est mentionnée dans le livre de Ezra et dans le livre de Divrei Hayamim. En moins 538, Cyrus donne la permission aux Juifs de rentrer en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Mes amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est moins 538, si vous avez l'oreille, on est quoi ? Eh bien, on est 50 ans après la destruction du Beth Amikdash. 50 ans que les Juifs habitent déjà à Babylone ou en Perse. Et à ce moment-là, Koresh leur dit, vous pouvez rentrer à la maison. Qui, à ce moment-là, est le dirigeant du peuple juif ? Eh bien, il s'appelle Zerubbabel ben Shealtiel. Et sous l'impulsion du prophète Haggai, eh bien, ils reviennent en Israël. Haggai, un avis, a dit « Kohamar Hashem, il faut rentrer à la maison ». Seulement, comme quelqu'un l'a souligné, très, très peu de Juifs rentrent avec Koresh. Mais venez, nous, on n'est pas en train de parler de Koresh et de ce qui se passe en Israël. On est en train de parler de ce qui se passe en Perse. Koresh devient donc le roi incontesté de la Perse. Il a un fils. Il a un fils qui va régner après lui. Il prend le trône en moins 530. Il s'appelle Kanbouzi deuxième du nom. Kanbouzi II. Et Kanbouzi II, il ne fait pas grand-chose dans sa life et il va même se suicider en moins 522. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quand est-ce que ça nous parle un peu ? Eh bien, Kanbouzi II, il a un fils qui s'appelle Dariavesh Ier, Darius I. Et là, Darius I, il commence à devenir intéressant, ce bonhomme. Darius I, il règne entre moins 521 et moins 486. Oui, je suis désolé de vous balancer des dates, mais on n'a pas le choix, sinon on ne peut pas comprendre quel est le contexte. Il règne entre moins 521 et moins 486, mais il y a une date qui est plus importante que les autres. Cette date, eh bien, c'est la date, oui, messieurs, dames, la date de moins 591. En moins 591, il y a une guerre. Une guerre mondiale, les amis. La plus grande guerre que le monde ait connue. Entre la Perse, dirigée par Darius Ier, et les cités indépendantes et libres de Grèce. On va appeler ça les premières guerres médiques, à ne pas confondre avec un R qui se serait glissé au milieu du mot. Il s'agit des guerres médiques. Je précise qu'il n'y a pas de R. Eh bien, ces fameuses guerres médiques vont en fait voir Athènes venir au secours des cités grecques et se battre contre Darius Ier. C'est une guerre qui va durer près de 2 ans et qui va se terminer par un combat. Un combat qui se passe sur la plage particulièrement d'une des cités grecques. Les Grecs sont en train de perdre le combat. Alors ils envoient un émissaire du champ de bataille jusqu'à Athènes pour demander des renforts. Il se doit d'aller très vite. Il doit y aller en courant. Il va courir de la plage jusqu'à Athènes. Une distance de 42,2 kilomètres. Et alors qu'il a couru pendant ces 42 kilomètres, il arrive à Athènes épuisé. Il a le temps de donner le message des renforts attendus et il meurt. Il venait de courir depuis la ville de Marathon jusqu'à Athènes. 42,2 kilomètres. De là va naître la course qui s'appelle le Marathon. 42,2 kilomètres. Et finalement, les Athéniens arrivent et guidés par un jeune général grec qui s'appelle Démistocle, eh bien, Démistocle va tirer une flèche qui va atteindre Darius Ier et Darius meurt des suites de ses blessures. La guerre est terminée, les Grecs ont gagné. Vous allez me dire, bah, c'est très bien tout ça, mais quel rapport avec nous ? Eh bien, c'est très simple. Darius, Dariavesh I, il a un fils. Et ce fils s'appelle Rachiarch Ier. Et là, je dis temps mort. Je dis temps mort et je reviens dans ma Megillah. Vayei bimea Achashverosh. Ou Achashverosh. Je répète ce que j'ai dit au début du cours. J'y crois, moi, à la Megillah. J'y crois que c'est vrai. Alors, c'est qui Achashverosh dont on me parle dans la Megillah? Parce que dans la Megillah, on ne m'a pas présenté. On ne m'a pas dit qui il est. On ne m'a pas dit quand il est. C'est qui ce Achashverosh? Eh bien, les amis, vous savez que de l'époque perse, nous n'avons pratiquement aucune source extérieure au Tanakh. À part les écrits de Hérodote. Hérodote était un grec, le père des historiens, qui est à cette époque-là, au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et Hérodote va essayer de couvrir les événements, va essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Perse. Mais Hérodote est un grec. Et donc, lorsqu'il va essayer de décrire ce qui se passe en Perse, il ne faudra jamais perdre de vue qu'il n'est pas objectif, parce qu'il déteste la Perse. C'est un grec, n'oubliez pas qu'il y a la guerre, il y a deux minutes, entre la Grèce et la Perse. Donc, il ne les aime pas. Et surtout, non seulement il ne les aime pas, mais il n'arrive pas à prononcer leur langue. C'est un grec. Il ne sait pas prononcer les noms grecs, les noms perses qui ont des sonorités attirées par les cheveux. Par exemple, eh bien, il y a en Perse, comme c'est un empire très grand, eh bien, il y a des gouverneurs de province. Comment s'appelle un gouverneur de province en Perse ?
Satrape.
Comment ?
Un satrape.
Un satrape ?
Satrape.
Oui, mais là, tu fais un grand péché, puisque tu prononces ça à la grecque. Parce que en Perse, comment ça se dit un satrapes ? En fait, en grec, c'est satrapes. Mais satrapes n'est que la traduction, ou du moins la grecisation de Achashpandatana. Maintenant, Hérodote, il ne sait pas dire Achashpandatana. Donc, il dit satrapes. Je vais vous dire un secret. L'auteur de la Megillah, hein, il ne sait pas non plus dire Achashpandatana. Parce que l'auteur de la Megillah, il parle très bien perse, mais beaucoup mieux qu'il ne parle hébreu, semble-t-il. Tous les noms perses, lorsqu'on veut les traduire en hébreu, on met un aleph devant. Et ce Chashbatatana va devenir le plus long mot de tout le Tanakh. Achashbatanim. Achashbatanim, les gouverneurs de province, qu'on voit dans la Megillah Esther. Oui, mais attendez deux secondes. Alors, si on doit rajouter un Aleph, Chashiarch devient Achashiarch, Achashverosh. Mais vous vous rappelez, Hérodote, il ne sait pas prononcer Achashbarch. Donc, il va l'appeler Xerxes. Le nom de Achashverosh en grec, ça sera Xerxes. Xerxes Ier ou Chashiarch Ier. Achashverosh. Ah, mais attendez deux secondes, parce que là, j'ai entendu que c'était Xerxès. Donc, j'ai été voir dans Wikipédia. J'ai demandé au Rav Google. Mais tu le connais, toi, Rav Google? Tu le connais, Xerxès Ier? Hoppa! Et là, j'ai une paracha entière sur lui. Parce que Xerxès Ier, on le connaît bien. Achashverosh. Il va régner sur la Perse entre les années -486 et les années -465, près de 20 années de règne. pour Xerxès, Achashverosh, Chashiarch. Et qu'est-ce qu'on me raconte sur lui? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Il est le fils de Dariavesh, le fils de celui qui a été battu par les Grecs. Donc, quelle est la première chose qu'il veut mettre en place? La revanche. Et Achashverosh, Chashiarch, Xerxès va lancer les deuxièmes guerres médiques. En l'an moins 480, combien ? 483. En moins 483.
On vous voit plus, Raphison.
Pourquoi on me voit plus ?
On voit très bien.
On me voit.
On te voit.
Bekitsour, en moins 483, il lance la troisième année de son règne, les deuxièmes guerres médiques. Et là, deux secondes, je reviens à ma Megillah. Mais qu'est-ce qu'on me raconte dans la Megillah? Je reprends le texte. Vaï, bimé, achashverosh, ou achashverosh, amolech, meodou veatkush, sheva, vesimoumé, amedina, bayamim, ahem, keshevet, amelech achashverosh, al kise malchuto, asher beshushan, abira, bishnat, shalosh lemolcho, asa mishte, לכל זרה ועבדה, הפסיקי סלה. חיל פרס ומדי הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. הנה, il vient de faire un grand משתה. Pour qui? חיל פרס ומדי. 80 ומאת יום. Il se michetait là, qui dure 6 mois. Mais vous croyez quoi? Que c'est un micheté où on se bourre la gueule tous les soirs? Mais absolument pas. Absolument pas. Nulle part il est marqué qu'ils ont bu pendant ces michetéotes-là. Ce sont 6 mois de conférences, 6 mois de hasbara, d'explications. Que Achashverosh, Xerxès, Chashiarch fait pour réunir sa coalition militaire. Un peu comme avait fait George W. Bush lorsqu'il avait voulu réunir la coalition, l'OTAN, tout ce que tu veux, pour aller faire la guerre à Saddam Hussein. Pendant 6 mois, ils en ont parlé d'aller envoyer des troupes en Irak. Achashverosh, pendant 6 mois, il réunit ces différentes provinces. Khail Paras ou Madaï, on ne boit pas. Il y avait peut-être un petit Bordeaux qui était présent le soir au repas. Mais ce ne sont pas du tout des mishtaot de je sais pas moi, comme on les présente. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ces mishtaot? Mais c'est marqué. Be'aroto et osher kevod malchuto, vet yekar tiferet gedulato. Il veut montrer dans ces mishtaot à quel point il est fort. Parce qu'il est en train de réunir une armée que le monde n'a jamais connue pour aller écraser les Grecs et enfin venger son père. Les historiens appelleront cette guerre Em Kol HaMilchamot, la mère de toutes les guerres. Dans son armée, Achashverosh, il a un général qui commande les troupes perses. Il s'appelle, d'après Arav Google, Mardinos. Et quand tu arrêtes de transcrire en grec tous les noms, il s'appelle Mardour. Mardour ? Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud. Chez Mordechai Rosh Geyasot chez l'Achashverosh Ava. Il était général des armées d'Achashverosh. Mardinos. Mardour. La guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, elle oppose encore une fois la Perse. À qui? À la Grèce. Et ces guerres médiques numéro 2 sont terribles. Hérodote fait état de près de 5 millions de soldats dans l'armée perse. Alors, c'est sûr qu'il exagère. Mais même s'il exagère fois 10, 500 000 hommes, c'est énorme. Et les Perses vont attaquer ceux qui sont vraiment un danger pour eux. La cité grecque la plus dangereuse, Sparte. Sparte, les Spartiates, des hommes dressés au combat depuis leur plus jeune âge. Seulement, réussissant à soudoyer le conseil de Sparte, le roi Léonidas Ier ne peut prendre avec lui que 300 hommes. Et c'est avec 300 Spartiates, il y a un film qui s'appelle 300, qui raconte cette histoire-là. Avec 300 Spartiates, les Grecs vont arriver aux Thermopyles, aux portes chaudes, pour arrêter l'armée perse. Ils vont tenir tête pendant des jours et des jours, mais finalement, après avoir tué des milliers de soldats perses, l'armée commandée par Mardinos Mardouk Mordechai va gagner le combat des Thermopyles. Les Perses pensent qu'ils vont enfin gagner leur victoire. Seulement, la chute de Sparte va réunir les armées grecques qui étaient divisées. Et sous le commandement de Démistocle, ils vont arriver au combat de Salamine. Un combat naval commandé par Démistocle pour les Grecs et commandé par un homme bizarre qui porte un nom général perse qui s'appelle Memouranos. Alors encore une fois, il va falloir qu'on arrête avec la gréquisation. Memouchan. Mais dites-moi, Memouchan, c'est qui? C'est Aman dans la Megillah. Et il perd le combat de Salamine. Et il perd le combat suivant de Platée qui signe la défaite de Hashiarch Xerxes Aleph. Les amis, nous sommes 4 ans plus tard, en moins 479, la Perse a perdu. Achashverosh revient dans son palais. Bredouille. Il part en tant que roi du monde et il revient en tant que petit roitelet de Perse qui vient de perdre la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous le statut de l'empereur d'Allemagne, du Kaiser, ou de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu'ils ont perdu. Entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième chapitre de la Megillah, nous on a l'impression qu'il s'est passé une nuit. À la fin du premier chapitre de la Megillah, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte qu'après avoir fait son michté pour toute sa coalition, il a fait un autre michté. C'est le fameux michté où tout le monde était bourré. Mais il a duré une semaine ce michté. Et il était uniquement pour les hommes de Shushan. En gros, il voulait remercier tous ceux qui ont fait 6 mois de boulot. Et il leur fait un michté de dépravation, mais c'est juste pour les remercier. C'est une semaine de vacances. Et c'est au sein de ce michté-là qu'il y a la fameuse histoire avec... Tiens, comment s'appelle-t-elle? Achashti Amalka. Nous, on l'appelle pas Achashti. Vashti, Otodavar. Et elle refuse de venir et elle se fait exécuter par notre ami Achashverosh. Et on a appris au Gan qu'il était bourré et que le lendemain matin, oh là là, ma pauvre Vashti, elle n'est plus là. Je veux une nouvelle femme. Pas du tout. La fin du premier chapitre, c'est Beshnat Shalosh le Molcho, le troisième année de son règne. On a dit en moins 483. Et le deuxième chapitre de la Megillah, où il commence à chercher une nouvelle femme, se passe la 7e année de son règne. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. 4 ans plus tard, après la guerre perdue. Et vous remarquerez que depuis le deuxième chapitre jusqu'à la fin de la Megillah, Achashverosh ne sort plus de son palais. Il n'est plus du tout le roi du monde. Il est un roitelet qui a été vaincu et qui reste dans son palais et qui n'a que de préoccupation que d'organiser le concours Miss Shushan. Et il se marie avec Esther. La voix saute sans arrêt. Non ? Bon, alors elle ne vous saute pas alors. Les amis, Achashverosh, Esther, Achashverosh, il a un fils qui s'appelle Atarshasta. Et Atarshasta, c'est le roi qui va nommer un certain Néhémia comme gouverneur de Jérusalem. Et ensuite, le petit-fils de Achashverosh, d'après les historiens, le fils d'après Chazal. Il semblerait qu'il y a un bug. Est-ce que Atarshasta ne serait pas lui-même Dariavesh numéro 2, Darius 2, Ben Esther, slicha. Et Darius 2 est celui qui va redonner la permission aux Juifs sous l'impulsion de Néhémia de revenir à Jérusalem. Vous comprenez que l'historique de Pourim se passe dans une réalité terriblement complexe. Au Gan, on nous a appris que Mordechai, c'est Rosh HaSanhedrin. On nous a dessiné dans le Gan où je prie dans un Gan chassid, chassidique de la chassidoute de Herloï. Ils ont mis des photos de Mordechai, des dessins. Bon ben t'inquiète pas, Mordechai, il vient de Pologne. Il a un Shtreimel, il a un Bekeshe. Il est habillé comme un juif de Pologne, comme un Admour chassidique. Mordechai. Alors, Chazal nous dit qu'il est Rosh HaSanhedrin, ou qu'il est du moins dans le Sanhedrin. Mais on vient de voir ici, d'après Chazal et la réalité historique, qu'il était très certainement un général en chef de la guerre, un chef de guerre. Est-ce que vous connaissez un autre personnage dans l'histoire juive qui était et grand rabbin et général d'armée? Ça peut marcher les deux ensemble? Oui? Vous en avez à me citer dans l'histoire?
Le Rav Goren.
Ah non, le Rav Goren n'était pas un général d'armée.
David
Ameler, il n'est pas général, il est Meler.
David
Ameler, il est roi, il est roi. Et c'est pas lui le général des armées. T'aurais pu me dire Benaya ou Ben Yehoyada, qui est le général en chef des armées de Shlomo et qui est aussi le Rosh HaSanhedrin. Ça, oui. T'aurais pu me dire, je ne sais pas, moi, par exemple, Yehoshua bin Nun. Voilà, Yehoshua bin Nun. Bon, mais trop facile. On est dans le Tanakh. C'est les temps bibliques. Plus proche de nous. Est-ce qu'on connaîtrait un homme qui est et grand rabbin et chef de guerre? Ramatkal. Voilà la BD qui raconte l'histoire de Rabbi Shmuel Hanagid. Rabbi Shmuel Hanagid, Ramatkal des armées de Grenade. Ramatkal il y a 1000 ans et parmi les premiers des Rishonim, parmi les Rabbanim. Donc, c'est peut-être pas complètement fou de dire que Mordechai, il était d'un côté grand tzaddik, mais d'un autre côté, un grand chef de guerre. Vous comprenez que l'histoire de Pourim n'est pas comme ça, pouf, ce n'est pas une légende. C'est une réalité concrète. Dariavesh Hasheni meurt en moins 404. Moins 404, les amis. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe en Israël? Eh bien à cette époque-là en Israël, on est à l'époque du retour des Juifs avec Ezra et Néhémia. Et j'aimerais, si vous me permettez, dans les minutes qui nous restent, puisqu'on s'est arrêté énormément sur le contexte historique des Perses, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs? Abotai, vous avez très certainement entendu parler d'un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas moi, Kirk Douglas, ou qui s'appelle Dustin Hoffman, ou qui s'appelle Woody Allen, ou qui s'appelle Steven Spielberg. Je ne sais pas, je balance des noms comme ça, Harrison Ford. Je ne sais pas, je balance plein de noms. des noms qui n'ont absolument rien à voir avec le judaïsme. Quel rapport entre Woody Allen et la tradition juive en termes de sonorité? Et pourtant, toutes les personnes que je viens de citer, eh bien, ont des noms qui sont empruntés, changés, modifiés. Woody Allen s'appelle quand même à la base Königsberg. Tous ces noms-là sont donnés à des enfants qui avaient des grands-parents qui étaient en Pologne, qui étaient en Allemagne, qui étaient en Hongrie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. L'histoire de la Megillah se passe 120 ans après la destruction du Temple. 120 ans après le début de l'exil. Ribon kol haolamim. Nous sommes sans... Pardon ?
Du premier temps.
Oui, du premier temps, bien sûr. Okay. 120 ans, on a dit le début de la galoute de Yechonia, c'est moins 597. Et la Megillah, on a dit, c'est sous le règne d'Achashverosh, c'est-à-dire moins 480, 80 à peu près. Donc ça veut dire qu'on est 120 ans après les événements, Rabotai. Nous sommes 120 ans après le début du sionisme politique. Et il y a en France un juif qui veut s'appeler Eric et qui veut que tout le monde s'appelle Eric. Mais vous riez. Mais Mordechai, est-ce que c'est lui qui est parti de Jérusalem avec Yechoniah Melech Yehuda? Très certainement que non. Parce que quoi, vous croyez que Mordechai, à l'époque de la Megillah, il a 120 ans? C'est pas possible. Et c'est ce qui va amener des commentateurs à dire que celui qui est parti de Jérusalem, c'est le grand-père. On nous dit « Ish Yehudi haya b'shushan abira, ushmo Mordechai, ben Yair, ben Shimi, ben Kish, ish Yemini, asher ogla mirushalayim, Kish. » Et celui qui est parti avec Yechoniah, Meshimi, il est déjà né à Babylone. Yaïr aussi. Et Mordechai aussi. Ribono shel Olam. Mordechai. Mais deux secondes, venez, on parle de son papa Yaïr. Yaïr, il a un fils. Comment il l'appelle? Il l'appelle Christian. Enfin, le Christian de l'époque. Mardouch. Mordor. Le dieu principal des Babyloniens et des Perses. Mais enfin, vous ne voyez pas ici l'assimilation culturelle énorme. Ribono shel Olam, on a des gens qui m'écoutent ici ce soir, je le sais, qui ont un peu plus dépassé, ils ont dépassé les 30 ans. Il y en a qui ont dépassé les 30 ans. Et il y en a qui, s'ils ne l'ont pas vécu, étaient... Enfin, on est juste après la nuit de cristal. Ma grand-mère est née en 1933. Ma grand-mère, vous comprenez, elle a 5 ans pendant la nuit de cristal. Mais quelle est la situation de la communauté juive d'Allemagne à la veille de la nuit de cristal? À part les 3 pelés et 2 tondus qui sont les élèves du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui sont encore orthodoxes. La communauté juive d'Allemagne, c'est Mordechai. Ils ont tous des noms Friedrich, ve Ulrich, ve Sigmund. On est 4 générations après. Je vais vous dire mieux que ça. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle d'Allemagne? Regardez. Je ne l'ai pas préparé tellement ça me vient maintenant. Mais regardez ça. Le dernier Lucky Luke. Le dernier Lucky Luke avec la terre promise. Où on voit quoi? Eh bien, on voit une famille juive. Une famille juive de Pologne qui va venir aux États-Unis. Ils ont même mis le Shem Hashem dans le Lucky Luke. Et moi, je me suis fait avoir. La première fois que je l'ai vu, je l'ai lu aux toilettes. Il y a Shem Hashem dedans, Bémet. Et qu'est-ce qu'ils te disent là-bas? Ils te racontent qu'il y a une histoire où il y a un cow-boy qui est censé récupérer ses cousins, les fameux juifs de Pologne. Et il lui dit, mais attends, mais quel rapport entre toi, Lucky Luke, il lui demande, mais quel rapport entre toi et une famille juive de Pologne? Eh bien, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas mon vrai nom. Comment il s'appelle ici? Comment il l'appelle? Il dit, comment, hein? Ah, je me rappelle même plus. Je sais plus. Il l'appelle... Oh là là, je ne me rappelle plus. Je sais pas où c'est marqué, je le connais. Ah voilà, il l'appelle ici Jack la poisse. Jack. Et il lui dit finalement, mais non, mais je ne m'appelle pas Jack, je m'appelle Yaakov Stern. Mais j'ai changé mon nom quand je suis arrivé aux États-Unis. Ribono shel olam. On est 4 générations après, 4 voire 5 générations. Mais vous savez comment ça marche. Les Juifs, il y a 120 ans, lorsqu'ils ont commencé à quitter l'Europe de l'Est, 1% a choisi de partir de Russie, de Pologne et d'Ukraine pour venir en Eretz Israël. La majorité des Juifs, vous savez où ils ont été? Ne me dites pas les États-Unis, parce qu'ils n'appelaient pas ça les États-Unis. Ils appelaient ça à Golden Medine, le pays de l'or. Et qu'est-ce qui est resté 4-5 générations après le Golden Medine? Tous les noms d'artistes que j'ai cités, tous mariés avec des goïms, tous complètement assimilés. Enfin, tous, je ne sais pas, j'ai pas regardé tous, mais... Vous voulez qu'on reparle des chiffres de l'assimilation à New York? Aux États-Unis, Bichlal? En France? À Golden Medine. L'histoire de Pourim, c'est l'histoire d'une assimilation terrible. Vous savez, en hébreu, on dit « Yamishpachat HaShomrim », la famille des gardiens. Première génération, on est Shomer Torah ou Mitzvot. Ensuite, on est Shomer Masoret. Deuxième génération, on n'est plus que traditionnaliste. Troisième génération, on est Shomer Hatzair, le mouvement sioniste de gauche. Et quatrième génération, on est déjà Shomer Mishkal, ça veut dire en français, on fait attention à sa ligne. Mais Rabotai, c'est pas drôle. C'est tellement pas drôle. Parce qu'on en est là. Pourim. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Yaïr et qui appelle son fils Mordechai. Alors Nachon, il va faire tchouva, il va devenir Rosh HaSanhedrin, à Koltov. Mais vous comprenez l'ambiance dans laquelle vivent les Juifs à Pourim? Ne'enu miseudato shel oto racha. Ils sont venus à leur michté d'Achashverosh. Ce sont des Perses jusqu'au bout des ongles. Et à l'école, on fait des débats, est-ce que tu es Perse juif ou juif Perse? Est-ce que tu es perse de confession israélite? Rabotai. À Pourim, il y a un événement qui va faire que tu es obligé de revenir à ton identité. Cet événement s'appelle Aman. Mais je laisse penseur ce qui aurait pu arriver à la communauté juive d'Europe occidentale s'il n'y avait pas eu la Shoah. À Golden Medine. Mordechai est rappelé à son identité juive. Mais Esther, elle n'est pas en reste. Esther, Hadassa, on en a parlé la dernière fois. Ishtar, Ashtoret, Astarte, la déesse de l'amour. Vous savez que de Ishtar va devenir le mot star en anglais. Avoda Zara la Méhadrine. Qu'est-ce qui continue l'histoire de Pourim? Et c'est sur ça que j'aimerais conclure. Parce que Maase Avot Simad Labanim et que Nevoa Sheutzrecha Ledorot Nirteva, une prophétie qui sert la génération. Je vous fais un cours sur l'historique de Pourim pour qu'on comprenne qu'on vit exactement la même situation. Tout le monde s'est ému devant ces images terribles de juifs qui sortent les sifrei Torah de la grande synagogue de Kiev. Mais Ribono shel Olam, mais qu'est-ce que tu fais à Kiev? Que maintenant t'es obligé de sortir le Sefer Torah, oh là là, les images. Mais eux aussi, ils avaient un président juif. Azma. Il faut attendre que ça arrive à Paris. Qu'est-ce qui suit la fête de Pourim, historiquement? C'est quoi la suite des événements? Je vous ai dit, la suite des événements, c'est Sefer Ezra et Nehemia. Mais qui revient avec Ezra? Kloum, Shum Kloum, une minorité. Alors, plus qu'avant, mais une minorité quand même. Et les autres, ils vont où? Ils vont dans la Golden Medina. Ils restent en Perse. Et ils s'assimilent tous. Tous! Et le peuple juif continue avec ceux qui sont revenus avec Ezra et Nehemia. Rabotai, s'il y a bien une chose qu'on doit apprendre dans ce Pourim, je reviens, c'est pour ça que j'ai décalé le cours d'une demi-heure, je suis désolé, mais j'étais à une levaya. J'étais à une levaya d'une dame que je ne connaissais pas, je ne connais que ses enfants, mais une dame qui s'appelait Esther. Comme maintenant elle est enterrée, on peut dire Leilui Nishmata, Zichrona Livracha. Et ça m'a heurté parce que elle s'appelle Esther, elle meurt à deux jours de Pourim. Et je me suis dit, mais Esther, qui a grandi en France, qui a vécu en France, qui a fait l'Aliyah comme nous, elle a des enfants qui portent tous des noms juifs et qui ont décidé, qui ont des petits-enfants et qui ont décidé de travailler dans le peuple juif. Ça veut dire quoi dans le peuple juif? Ils travaillent à faire venir des juifs en Israël. C'est ça leur métier. Eh bien, c'est ça la réponse de Esther à Esther. Dariavesh Hasheni, ben Esther, c'est lui qui va redonner la permission aux Juifs et réinsuffler la Aliyah Hashnia, la deuxième Aliyah de l'époque. Quelle va être la suite de Pourim 2022? 120 ans après le début du retour de notre génération, il y a ceux qui décideront de rester en Ukraine, de rester à Paris, de rester à New York, et qui essaieront de garder ou pas un semblant d'identité juive. Ça tiendra encore une génération, deux, trois, quatre. Et il y a ceux qui décideront de revenir reconstruire l'identité d'Israël. Est-ce que, à la suite de la Megillat Esther, tu restes en Perse et il n'y a plus de livre pour toi, ou est-ce que tu rejoins Ezra et Nehemia? Voilà l'enseignement de Pourim 2022. Bayami Mahem Ubazman Azé. Erev Tov, Lekulam.
Azak Ubarur, Toda Rabah.
Est-ce qu'il y a des questions?
Merci beaucoup. Recording stopped.